Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Bon, j'ai une histoire vraiment formidable qui réchauffe le cœur à vous présenter. Je suis tombé sur la vidéo d'une chaîne YouTube et TikTok qui s'appelle HFTV pour Habs Fan TV, donc partisans du Canadien. Écoutez, le principe, c'est simple. Autour du Centre Bell, les gens de cette chaîne-là vont interviewer des partisans du Canadien. Et là, ils sont tombés sur un personnage atypique, disons. Sean McRae est un fan du Canadien. Ce n'est pas atypique. Ce qui est atypique, c'est que M. McRae est un partisan du Canadien qui habite au Texas. Et il a appris le français. Il a développé son français grâce à son amour du Canadien en écoutant de Austin au Texas les matchs du Canadien sur RDS. Je suis content de lui parler ce soir. Notre équipe de recherche l'a retracé au Texas. Monsieur McRae, bonjour.
Bonjour.
D'abord, écoutez, dites-moi, comment on devient fan du Canadien de Montréal à Austin, au Texas?
Ah oui. au Texas, le hockey n'est pas très populaire. Bien sûr, il y a le Stars de Dallas. Mais en fait, j'ai grandi à New York, à moins de 3 heures au sud de Québec, près de la ville d'Albany. Et en fait, à l'université en 2012, je suis devenu un fan de hockey pour la première fois. Mon ami vient de Long Island et il était un fan des Rangers de New York. En fait, quand j'ai décidé d'être un fan de hockey, mon premier équipe favori était les Rangers de New York pour 5 ou 6 années. Ensuite, en 2019, mon compagnon a rompu avec moi. C'était le temps parfait pour réinventer moi-même. Et j'avais un ami qui habite à Montréal et il me dit que il faut être un fan des Canadiens Montréal. C'était une équipe plus fun avec les partisans plus intéressants. Mais il m'a dit que si j'ai voulu être un fan des Canadiens, j'avais besoin d'apprendre moins un peu de français.
Et c'est ce que vous avez fait. Votre français est très impressionnant, disons, pour j'allais dire pour un Américain. Votre français est impressionnant, point, pour quelqu'un dont c'est la langue seconde. Comment vous avez appris le français?
Et en fait, beaucoup de mes études français étaient tout seul. J'ai commencé mes études sérieuses de français quand j'ai décidé de commencer de regarder le match canadien sur RDS avec Pierre, une icône, bien sûr, québécoise.
Avec Pierre Houde.
Oui. avec le tir et le but, cet homme-là. Ensuite, RDS est très bien pour apprendre le français, mais c'était pas la seule chose que j'ai utilisée pour apprendre le français. Bien sûr, l'application populaire Duolingo.
Okay.
Je l'utilise tous les jours pour apprendre le vocabulaire. Il y a un site en ligne qui s'appelle Lingolia pour étudier la grammaire. Il y a beaucoup d'activités en ligne sur ce site de web. Ensuite, j'ai des amis montréalais, j'ai des amis français et je parle avec eux à moins d'une fois par semaine pour pratiquer mon français, spécialement avec mes amis québécois. Pour apprendre beaucoup le slang des Québécois, quand même. C'est son important, là.
le slang, le jargon, le joual. Quels sont vos mots de joual préférés?
Sur le mot, c'est que j'utilise beaucoup ici, au lieu de ici.
Ici.
Pour moi, c'est plus facile pour un Américain de dire le mot ici au lieu de ici, parce
oui.
que le français de France n'aime pas comme je dis ici. So, j'ai décidé de dire récit.
Quand est-ce que vous venez vivre à Montréal, Sean McRae?
Ah, bonjour. Je voudrais habiter à Montréal, mais maintenant, c'est pas possible parce que je viens de finir mon programme à l'université. J'ai commencé mon travail. Et en fait, j'aime beaucoup mon travail.
Oui.
Je ne veux pas changer.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis pharmacien.
Écoutez, je vous ai vu dans cette vidéo à côté du Centre Bell samedi. Sean, est-ce que c'était la première fois que vous veniez assister à un match du Canadien à Montréal?
Non. En fait, en décembre, j'ai voyagé pour la première fois à Montréal et j'ai resté là pour 3 matchs des Canadiens au Centre Bell contre le Panthers de Floride, le Red Wings de Détroit et le Kraken de Seattle.
Écoutez, vous êtes adorable. Vous êtes un exemple pour tous ceux qui veulent apprendre une langue. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens dont le français n'est pas la langue maternelle et qui débarquent à Montréal et qui veulent apprendre le français?
Oui. En fait, la première fois, vous avez besoin d'avoir une passion pour la langue que vous voulez apprendre. Je comprends que c'est un problème au Canada pour les personnes qui ont forcé d'apprendre le français. C'est la même chose aux États-Unis. Quand j'étais à l'école, mes parents m'ont forcé d'apprendre l'espagnol parce que c'était une langue plus populaire aux États-Unis. Et quand j'étais étudiante, je n'ai pas voulu d'apprendre l'espagnol. Fait que je les déteste beaucoup le cours. Je déteste beaucoup mes professeurs. Donc, je pense que vous avez besoin d'avoir une passion pour la langue que vous voulez apprendre. Si vous n'avez pas la passion, ben c'est trop difficile pour apprendre.
Merci beaucoup, Sean. Je vous souhaite un bon après-midi là-bas au Texas.
Merci. Et toi aussi.
Et go Habs go.
Go Habs go.
Salut, Sean.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Dans la prochaine heure, je vous invite à me suivre dans une de mes nombreuses angoisses personnelles que je partage peut-être ou pas avec plusieurs d'entre vous, à savoir, comme francophone au Canada, est-ce qu'on peut encore se définir comme Canadien-Français ou est-ce que je suis le seul? Ben oui, vous regardez encore un autre documentaire sur la francophonie.
Bon, ça résume tout, ça résume ouais. Tout. Il s'appelle Pascal Justin Boyer et samedi, à Radio-Canada, va présenter son documentaire, Le dernier Canadien-Français. Bonjour!
Salut, merci de l'invitation.
Ben, c'est un plaisir. Fait que, ouais, pas un autre documentaire.
Ben oui, un autre documentaire sur la francophonie canadienne.
Tu te prends pas au sérieux, tu l'annonces dès le départ.
Ben oui, mais c'était le but aussi. On voulait pas se prendre au sérieux. Ça nous donne la latitude de traiter de sujets sérieux, mais de manière légère.
Ben c'est ça, outre le ton, parce que le ton est quand même très amusant pendant le documentaire, qu'est-ce que t'avais envie de dire sur le titre de Canadien-Français?
Ben en fait, c'est que moi, je suis né à Sherbrooke, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, j'ai passé mon adolescence à Ottawa.
Où à Ottawa?
À Ottawa. Ben, j'ai grandi à Orléans, dans l'Est. Mais je suis allé au centre-ville à De La Salle.
OK. Ouais, parfait. C'est ça. Fait que t'as grandi
pour les connaisseurs d'Ottawa.
Oui, j'en suis un.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai deux parties de mon identité qui sont quand même compétitives. Triste jusqu'à un certain point. On a la partie québécoise de laquelle je suis très fier, la partie franco-ontarienne de laquelle je suis très fier aussi. Donc, chercher un terme chapeau, un terme parapluie pour conjuguer ces deux identités-là.
Mais c'est un vieux terme. Ça n'existe plus, ça, les Canadiens-Français. Oui.
Mais moi, j'ai trouvé Canadien-Français. J'ai commencé à en parler, puis on m'a dit, mais non, mais tu peux pas te... Non, on parle plus de tout ça parce que, bon, tous les items historiques qui nous incitent à ne plus utiliser
ce terme-là. C'est vrai que ça s'est perdu, en fait, au fil de l'affirmation nationale du Québec.
Exact.
Les Canadiens-Français que nous étions sont devenus des Québécois. Hors Québec, les communautés ne s'identifient pas comme Canadiennes-Françaises?
Ne s'identifient plus comme Canadiennes-Françaises à cause, justement, que, bon, il y a eu un événement qui s'appelait les États généraux de la langue française dans les années 70, où est-ce que tous les francophones du Canada étaient invités à venir traiter, justement, des dossiers importants à amener devant les ordres politiques, etc., etc. Et puis, ben, ça matche le temps où est-ce que le Québec était dans une montée nationaliste, vivait la Révolution tranquille, des items que les autres communautés francophones ne vivaient pas à ce moment-là. Et donc, on dit souvent qu'on est rentré canadien-français et on est sorti québécois, franco-ontarien, franco-manitobain, francescois, etc.
De cette conférence-là.
De cette conférence-là. Mais à partir de là, la territorialisation de l'identité, donc d'associer là où on vit avec le fait français, c'était un petit peu artificiel parce que ça a été causé par le fait que le Québec, lui, a décidé de tirer la plug sur ces réunions-là et de dire, regarde, nous autres, on va affirmer notre propre patente. Et puis, ça a comme un petit peu envoyé pâtir les autres francophones qui étaient là.
Mais tu t'es promené pas mal. T'es allé dans un des territoires, t'es allé dans l'Est, dans l'Ouest, t'es allé te promener en Colombie-Britannique aussi. Qu'est-ce que t'as découvert de plus qu'on ne sait pas là, sur la francophonie à l'extérieur du Québec? À part de dire que nous, on se prend le nombril du monde ici au Québec.
J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça.
C'est un petit peu évoqué. Hein?
Non, j'ai jamais dit ça.
En tout cas, tu le nies pas.
Non, je le nie pas, mais je l'ai jamais dit. La première chose que j'ai découvert, c'est que le Yukon, c'est absolument extraordinaire. Faut absolument y aller si on a la chance. Mais ce que j'ai découvert, ce sont vraiment des communautés qui sont vibrantes. Souvent, on a l'impression que les francophones à l'extérieur du Québec vivent un petit peu sur le respirateur artificiel. Ouais. Or, il n'en est rien. C'est sûr que c'est une disponibilité, c'est une réalité qui est complètement différente de la nôtre ici à Montréal, au centre-ville, mais c'est quand même des communautés qui, à leur manière, sont vibrantes d'un point de vue éducationnel, culturel, politique, etc.
Puis ça passe beaucoup par l'école.
Tout à fait.
Puis ce qu'on se rend compte, en regardant le documentaire, c'est que c'est très rare là, d'aller à l'école en français puis de pouvoir poursuivre des études aussi en français. Donc, tu sais, les communautés au travers du Canada, ça va être difficile de garder une certaine pérennité pour maintenir la langue. T'sais. J'ai l'impression que c'est comme un gros poumon artificiel.
Ce qui est gossant, c'est que c'est constamment un combat à recommencer. Il y a de cela quelques années, c'est les parents francophones de la Colombie-Britannique qui traînaient la province jusqu'en Cour suprême. Là, faut quand même se faire l'image. Là, on est allé en cours d'abord, on est allé en appel, on est allé à Cour supérieure, on s'est rendu jusqu'en Cour suprême. C'est énormément de ressources, énormément de temps.
Pour le droit de quoi?
Pour le droit d'avoir accès à des établissements scolaires similaires à ceux des anglophones. Dans le sens où une école secondaire, pas de gym, ça devrait pas se pouvoir. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça.
Ah, là, tu m'étonnes. Ça, c'est permis au Canada anglais pour les communautés francophones. I refuse to believe that.
Mais c'est ça, dit-il en anglais. Et là, récemment, c'est les chums du territoire du Nord-Ouest qui sont devant la Cour suprême, encore une fois, pour affirmer leur droit d'envoyer ce qu'on appelle des ayants droit, donc les gens qui ont le droit d'aller à l'école en français. Je pense que pour conclure sur l'éducation, c'est beaucoup le post-secondaire présentement qui retient l'attention.
Il y a une université à Toronto.
Il y en a une qui vient d'ouvrir, elle est en train de faire ses preuves.
C'est sûr que c'est un embryon. Ouais.
C'est un embryon, tout à fait. Après ça, tu as la Laurentienne, qui est un endroit mythique de l'Ontario français. C'est là qu'on a levé le premier drapeau franco-ontarien. C'est l'endroit où est-ce que le théâtre du Nouvel Ontario est né, etc., etc., qui ont coupé à peu près 50% de leur programme en français. Ça envoie des drôles de messages. Puis là, je vous parle même pas du campus Saint-Jean en Alberta.
L'Université de Moncton.
Exact.
Pascal Justin Boyer, je t'écoute parler avec passion des communautés francophones hors Québec, OK? Puis pour les avoir côtoyés quand j'habitais à Ottawa, parce que, bon, il y avait les franco-ontariens, mais il y avait des francasquois, il y avait des franco-albertains, des acadiens, évidemment. J'ai adoré les côtoyer. Leur combat est admirable. Mais au-delà de l'anecdote, je veux dire, la francophonie est soluble dans le Canada. Les taux d'assimilation sont épouvantables.
Oui, absolument. On se mentira pas. Je pense que c'est pour ça que le but du documentaire, en fait, c'est de repartir cette conversation par rapport au partenariat entre francophones au Canada. C'est dans les années 70, on s'est fait désigner comme des dead dogs, des canards qui allaient mourir.
Par
René Lévesque, on lui enlèvera rien, mais il a quand même dit ça. Ce qui fait en sorte que on dirait
Denis
que
Bombardier a à peu près la même chose.
Oui, à peu près. Il y a de ça quelques années. Ouais. 50 ans plus tard, c'est plus vraiment vrai. En tout cas, pour du monde qui allait mourir, on est encore pas mal vivant.
Oui, mais je reviens à ça. Je comprends, là. Il y a toujours des exemples où il y a des gens qui continuent à vivre dans une mer d'anglophones. Mais quand tu regardes les taux d'assimilation réels aujourd'hui, c'est encore... Ça donne le vertige. Je veux dire,
mais c'est sûr que ça
vivre
donne...
en français au Canada, c'est extrêmement difficile si t'es pas au Québec.
En fait, même, je vais ajouter à Patrick une question. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'avantage? Pourquoi quelqu'un voudrait vivre en français ailleurs quand c'est bien moins compliqué de vivre en anglais.
Ben, vous êtes en train de souligner, en fait, les raisons pour lesquelles les immigrants francophones décident de quitter les communautés francophones en milieu minoritaire, alors que l'immigration francophone est extrêmement importante à la pérennité du fait français au pays. Il en demeure pas moins que, tu sais, quand on se pose des questions par rapport à l'assimilation, des trucs du genre, c'est l'équivalent de dire pourquoi est-ce que les gens qui sont depuis des générations à Ottawa, pourquoi ils déménagent pas à Gatineau, c'est juste de l'autre côté.
Mais à Ottawa, il y a une masse critique. On peut dire ça.
Mais il en demeure pas moins qu'il y a un attachement, émotionnel, de la même manière que la madame pendant le déluge du Saguenay qui voulait pas quitter sa maison, elle avait un attachement envers sa maison.
En gros, ce que tu dis, c'est abandonnez-les pas, puisqu'ils veulent survivre.
Ben, non seulement il y a une volonté de survivre, mais je pense que en se mettant ensemble, non seulement le Québec peut apprendre des communautés francophones en milieu minoritaire, mais nous autres aussi, on peut apprendre, évidemment, du Québec.
Mais est-ce que le Québec se soucie des autres communautés francophones?
Ben, dans un mot très rapide et très sec, non.
Non.
Mais je pense
on fait un peu ce que nous on reproche à beaucoup d'autres
aux Français,
ouais. mais on le fait vivre aux francophones à l'extérieur du Québec.
Oui, que ce soit par la discrimination linguistique, tu sais, des fois de temps en temps, tu sais, on a un accent, ça fait que là, ben, on a peur de parler en français devant du monde qui parle mieux français que nous, tu sais. Fait qu'il y a définitivement ça, oui.
Non, j'allais te dire, moi, tu sais, les Français qui parlent toujours de notre accent, à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais la même affaire
avec les
Acadiens, par exemple. Ben oui. Et c'était pas pour rire, mais j'ai arrêté de parler de l'accent acadien parce que les Français sont tellement fatigants avec notre accent.
Mais pensez aux gars de Radio-Radio, pensez à Lisa Leblanc, combien de fois on leur a parlé de leur accent au lieu de parler de leur œuvre? Mais c'est gossant, ça. C'est sûr qu'à un moment donné, à force de se faire parler de notre accent, ben, on se retire, puis on se dit, ben, coudonc, ils sont juste intéressés par ça.
Pour garder les deux côtés de la médaille, mais il faut qu'ils viennent au Québec pour vivre de leur art, parce qu'en Acadie, c'est difficile.
Mais il y a beaucoup de gens, évidemment, qui déménagent ici. Mais même sur le plan des lois, tu sais, je pense qu'à la fin du documentaire, tu parles avec Jean-François Robert, je vous parlais du projet de loi C-13, tu sais, qui, en fait, exigerait aux gens qui veulent travailler en français dans la fonction publique de pouvoir le faire. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de vœux pieux, puis d'actions qui sont menées.
Mais c'est parce qu'on se retrouve dans une situation, encore une fois, où est-ce que c'est vraiment politique. Donc, c'est d'institution à institution. Nous, ce qu'on veut, c'est partir d'une conversation d'individu à individu, puis je pense que c'est là où est-ce qu'on peut gagner.
Pascal, Justin Boyer, on va continuer la conversation après la pause à propos de la francophonie canadienne. Ton documentaire passe à Radio-Canada samedi soir.
Tu touches à quoi?
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé. Le Québec
maintenant. 15h54, Pascal Justin Boyer est avec nous. Son documentaire va être diffusé à Radio-Canada samedi soir. Le dernier Canadien français. Il y a de la provocation là-dedans.
Émission de radio de canadienne française.
Ben, je déconne un peu. Je dis, hey, on a un programme de radio canadien-français.
Oui, exactement.
Canadien-français, y a-t-il des chances que ça revienne dans le vocabulaire?
Aucune chance. C'est quand même un terme qui est lourd dans son historique. Là. Ça réfère à une époque où est-ce que le fait français était extrêmement relié.
Subordonné aux Anglais,
Subordonné aux Anglais, mais relié à l'Église catholique. Ça rapporte au mythe des deux nations fondatrices. Ouais. Donc, ça tasse un petit peu les Premières Nations du coup. Donc, en 2024, non, je peux pas vraiment imaginer que Canadien-Français revient au goût du jour.
Tu l'as fait pour t'amuser, là, ce documentaire-là. On l'entend vraiment. C'est vraiment très drôle, là, la façon dont tu racontes ton histoire ou cette histoire-là. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression que tu pourrais changer les choses avec un documentaire de la sorte?
Je pense que, d'abord et avant tout, il y a aucun documentaire sur la Terre qui peut prétendre avoir une solution à un problème. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est partir une conversation. Ouais. Et je pense sincèrement qu'on a besoin de partir cette conversation-là. Tu sais, avant la pause, je parlais de repartir le partenariat entre francophones au Canada. Je pense que c'est nécessaire. Ça va commencer par la communication.
Comme quoi, par exemple, quel genre de partenariat on pourrait créer ailleurs avec d'autres communauté francophone?
Ben, tu vois, présentement, le gouvernement du Québec a déployé énormément d'efforts pour faire le sommet des rapprochements des francophonies canadiennes. Bon, c'était prometteur. Je suis certain qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place. Moi, personnellement, en tant que personne sur le plancher des vaches, j'ai pas vu la couleur de ces initiatives-là. Donc, ça demeure très, très institution à institution. Donc, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Moi, n'importe quelle initiative qui est avancée pour favoriser la francophonie, le fait français au Canada, je dis bravo. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il va falloir engager davantage monsieur, madame, tout le monde, puis arrêter de se fier constamment aux institutions parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde dans les institutions, tu sais.
OK, dernière question. Tu as fait, Pascal Justin Boyer, ce documentaire sur la francophonie canadienne. Toi-même, t'étais dans la Franco-Ontarie. Maintenant, t'habites à Montréal. Mm-hmm. C'est pas comme tourner le dos à tes compatriotes?
Je me suis senti comme ça jusqu'à un certain point, puis c'est pour ça d'entrée de jeu j'ai dit c'est difficile de conjuguer une identité québécoise avec l'identité franco-ontarienne. À la fin de la journée, non, parce que je continue à parler d'eux. Je suis présentement au 98.5 devant Pat Lagacé en train de parler d'eux. Donc non, je pense pas avoir tourné le dos du tout.
Parfait, merci. Ton documentaire beaucoup. Le dernier Canadien français va être diffusé à Radio-Canada samedi soir. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous deux.
Écrivez-moi 98985.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté son budget hier. Et dans ce budget, il a annoncé la fin prochaine graduelle des subventions pour les véhicules électriques. C'est ce qu'on appelle le programme Rouler vert. On va aller voir comment ça a été reçu aujourd'hui chez les concessionnaires automobiles avec Yann Sam Yuchi. Il est président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Monsieur Sam Yuchi, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être nous expliquer là, c'est quoi, en quoi consiste le programme Rouler vert et jusqu'à combien ça pouvait ça peut rapporter encore là, si on achète ou on loue un véhicule.
Avec plaisir. Ben, le programme Rouler vert donne essentiellement une subvention de 7 000 $ lorsqu'un Québécois achète un véhicule et l'immatricule au Québec électrique. Il y a des rabais qui sont régressifs selon si c'est un véhicule hybride branchable ou un véhicule d'occasion immatriculé pour une première fois au Québec. Mais essentiellement, c'est un rabais jusqu'à 7 000 $.
Puis il y a un plafond sur la valeur du véhicule.
Oui, absolument, qui s'établit à 65 000 $.
OK, donc c'est 7 000 $, qu'importe que le véhicule coûte 30 000 ou 65 000 $.
Exactement.
OK, comment ça a été reçu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un effet dans les planchers des concessionnaires automobiles au Québec suite à l'annonce de M. Girard hier?
Au premier niveau, c'est sûr que les Québécois veulent savoir c'est quoi le cadre normatif de cette régression-là du programme. Autrement dit, si j'achète un véhicule vers la fin de l'année puis qui m'est livré l'année suivante, est-ce que j'ai le droit au rabais 2024 de 7 000 $? Et la réponse, on l'a obtenue. Là, on a parlé aux gens qui gèrent le programme et on s'est fait dire que c'est l'immatriculation qui ferait foi de tout. Donc, autrement dit, le véhicule devra être immatriculé en 2024 pour donner droit au rabais de 7 000 $.
OK, donc si on commande un véhicule puis qui arrive des mois ou l'année suivante, ben c'est quand on immatricule que le régime de subvention s'établit.
Exactement.
OK, pensez-vous qu'il y a moins de véhicules qui vont se vendre et qui vont se louer une fois que la subvention va tomber?
La réponse est oui, très certainement. Le programme a prouvé être efficace. Hein? On vend, en fait, plus d'un véhicule sur cinq au Québec qui est vendu par nos concessionnaires est électrifié. C'est un bon chiffre si on se compare à nos voisins ontariens qui vendent moins de 10% de véhicules électriques. Et tout ça, selon notre perspective à nous, est conséquence d'un programme fort qui est celui du programme du Québec Rouler vert. Alors, on le retire, il y a un impact direct sur, évidemment, la stimulation de la demande pour ces véhicules-là chez nous.
C'est quoi la moyenne de coût d'un véhicule électrique au Québec?
Écoutez, les véhicules sont chers généralement ces jours-ci avec les niveaux d'inflation qu'on a connus dans les dernières années. Donc, ça fait en sorte que on venait amenuiser la disparité. Si on prend des véhicules moyens, là, des véhicules qui sont disponibles pour les Québécois, on a calculé une disparité de prix entre 25 et 31 000 $ d'un véhicule électrique pour leur équivalent à essence. Donc, c'est vraiment une différence qui demeure très importante, bien qu'elle tende à s'amenuiser dans le temps. Maintenant, le gouvernement a pris la décision dès maintenant, prospectivement pour 2027, d'abolir le programme, mais qui sait quelle sera la disparité en 2027? Nous, on pense qu'on n'aura pas atteint la parité des prix à ce moment-là.
OK. Le véhicule moyen à essence coûte encore moins cher que le véhicule moyen électrique.
Exact.
OK. Mais j'étais sur le site du gouvernement tantôt. Je regardais les véhicules qui sont admissibles. Beaucoup de véhicules de luxe. Et je vous pose la question, M. Samiucci, vous connaissez ça mieux que moi. Quand quelqu'un a les moyens de payer 60 000 $ pour un véhicule, là, s'il ne reçoit pas la subvention de 7 000, est-ce que c'est vraiment un deal breaker? Est-ce que ça va vraiment l'empêcher d'acheter le véhicule?
Je pense que l'objectif du programme, c'est de bonifier, si on veut, la, financièrement, là, disons-le, la décision des Québécois de transitionner vers l'électrique. Puis si on s'en tient qu'à ça, bien évidemment que le programme a eu son effet. Là. On a quand même 240 000 véhicules électrifiés sur les routes du Québec. C'est 42 % des véhicules électrifiés canadiens parce qu'on a ce programme-là. Maintenant, le choix est celui du gouvernement de dire, bien écoutez, on va faire un programme qui est général. On veut être capable de bonifier le choix écologique de tous les Québécois. Donc, nous, on est 100 % d'accord avec ça.
Ça se peut-tu qu'il y a des fabricants qui, sachant qu'il y a des juridictions comme le Québec, pas uniquement le Québec, là, donnent des subventions pour l'achat de véhicules électriques, pèsent un peu plus fort sur le crayon au moment de faire le prix de détail suggéré?
C'est pas ce qu'on constate. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les allocations de véhicules au niveau mondial vont là où les véhicules sortent le plus rapidement. Alors, le Québec est effectivement actuellement un marché de prédilection pour toutes sortes de raisons, notamment le prix de l'électricité, le rabais de roulé électrique, roulé vert plutôt. Puis évidemment, il y a aussi la norme VZE, la norme qui oblige les manufacturiers à distribuer un certain nombre de véhicules sur le marché du Québec. Mmh. Donc, tout ça étant mis en relation, les manufacturiers font des choix. Puis une chose qui est importante à mentionner, c'est qu'il y a une espèce de je veux dire, contrat social entre l'industrie et le gouvernement par lequel, oui, on s'est fait imposer des quotas, des normes pour distribuer un certain nombre de véhicules électriques, mais il y avait un corollaire à ça, qui était le soutien par le gouvernement du Québec de l'industrie pour nous permettre justement de favoriser l'achat de ces véhicules-là par les Québécois. Là, on perd un très gros levier, mais l'autre corollaire, qui est celui de la norme VZE, demeure. Donc moi, ma question pour le gouvernement du Québec, est-ce que on va réajuster nos cibles très ambitieuses d'atteinte de nombre de véhicules électriques dans le temps, puisqu'on laisse tomber le programme rouler vert? Vous savez, on parle de 2 millions de véhicules sur les routes du Québec dès 2030. C'est dans 5 ans, ça.
Je reviens.
140 000.
Monsieur Samiucci, je recule la cassette un peu, là. Vous m'avez dit qu'il y a combien de véhicules électriques qui ont été vendus au Québec en vertu depuis le programme rouler vert?
Il y en a 240 000 sur les routes du Québec. Ce n'est pas tous des véhicules qui ont été admissibles en fonction du programme, selon le prix, bien sûr, il y en a qui ne sont pas admissibles.
Mais je vous dis, j'ai de la misère à me faire une tête sur l'effet dans le réel. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sait, y a-t-il un sondage qui montre combien de véhicules n'auraient pas été achetés, par exemple, s'il n'y avait pas la subvention de 7 000 $?
On a l'histoire qui nous renseigne là-dessus. Il y avait un programme équivalent en Ontario jusqu'en 2018. Et en 2018, le gouvernement de Doug Ford a décidé d'abolir le programme. Et l'impact a été immédiat. Les Ontariens ont cessé d'acquérir des véhicules électriques du jour au lendemain, de sorte que ces unités-là, invendues du côté ontarien, ont été transférées sur le marché du Québec. Et nous, les concessionnaires du Québec, on les a évidemment livrés aux Québécois en fonction du programme Rouler vert. Donc, l'histoire nous enseigne que ces programmes-là sont efficaces. Ils sont coûteux, certes, mais ils sont efficaces quand vient le temps de faire un choix sociétal comme celui du verdissement du parc automobile. Il faut savoir une chose, M. Lagacé, c'est que les sommes allouées pour le programme émanent pas du fonds consolidé du revenu. C'est des sommes qui sont déjà prévues dans le fonds d'électrification et des changements climatiques. Donc un fonds dédié. Donc, on va désinvestir dans les faits directement dans le secteur du verdissement du parc automobile au Québec, qui est un secteur qui, disons-le, là, je veux dire, les véhicules qu'on distribue à essence sont des véhicules qui peuvent effectivement polluer. On a une grande part des GES qui émanent de ce secteur-là. Mais là, ce 500 millions-là, qui était dans le fond, on veut le réinvestir où? Parce que le gouvernement semble dire que la mesure n'est pas efficace. Mais là, OK, on va l'investir où? Qu'est-ce qui peut être plus efficace que de verdir le parc automobile au Québec? À mon avis, il n'y a pas d'autres solutions plus viables.
OK. Avez-vous une prédiction en termes de baisse de pourcentage de voitures qui vont être vendues quand la subvention de rouler vert sera plus disponible?
Ah, c'est dur à dire. Je suis pas un devin.
Ben, on est-tu plus dans le 10 ou dans le 50?
Oh, je pourrais pas dire 50% par reste que les plans manufacturiers sont existants, là, dans le sens qu'il y a des véhicules qui vont sortir des usines. Il y en a de plus en plus. Il y a une croissance qui existe. Donc, les véhicules seront disponibles maintenant. Combien de moins, j'ai aucune idée. Maintenant, on voit que le gouvernement, lui, pense qu'en 2027, ça ne sera pas un problème. C'est pas ce qu'on anticipe, ça, c'est certain.
Pourquoi il y a si peu de véhicules électriques qui sont dans la fourchette de prix abordable?
Très bonne question. Moi, j'ai un élément de réponse, certes. On n'est pas. Le gouvernement parlait d'atteinte de maturité dans ce marché-là. Je suis pas du même avis. Au contraire, on n'est qu'au tout début de cette aventure-là qui est celle du verdissement du parc automobile mondial. Les modèles sont tous récents, sont tous nouveaux. Regardons les modèles qui sont sortis dans les deux dernières années. C'est pratiquement tous des véhicules électriques qu'on n'avait jamais vus sur les routes. Donc, essentiellement, ben quand on part une nouvelle usine avec un nouveau modèle, ben il y a un amortissement qu'on doit prendre, puis tout ça prend du temps. À terme, c'est clair que le prix des véhicules va diminuer. Mais on n'est pas rendu là. Puis c'est exactement ce qu'on dit. On est tout à fait d'accord avec le fait que ce programme-là, qui est celui de rouler vert, peut pas durer éternellement. Ça fait cela va de soi. Mais c'est trop tôt pour le régresser actuellement. C'est seulement ça qu'on dit, nous.
Le véhicule le moins cher, le véhicule électrique le moins cher disponible là, au Québec, M. Samiucci, c'est lequel? Et combien?
On me disait qu'il y avait un Mitsubishi là autour de 30 000, mais là, je vais faire bien attention. Okay. Parce que je n'aime pas nommer les marques parce que je les représente toutes. mais il y avait un Mitsubishi, dont j'oublie le modèle, qui était peu dispendieux, là, autour de 30 000.
Bon, on va suivre ça avec intérêt. Merci d'avoir été avec nous, M. Samiucci.
Merci à vous. Bonne journée.
À la prochaine. Yann Samiucci est président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Dans 30 minutes, 30-35 minutes, on va parler avec la professeure Catherine Morancy, spécialiste en mobilité. Elle trouve que c'est une bonne idée. On a hâte de l'entendre.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, on va faire le point sur ce qui se passe avec Boeing. Il y a deux grands constructeurs d'avions dans le monde. Boeing, qui est une compagnie américaine, et Airbus, qui est un consortium européen. Donc, ces deux grands avionneurs se disputent le marché. Beaucoup de concurrence. Et quand vous prenez un vol de moindrement longue distance, ben il y a de grandes chances que ce soit un Boeing. Et Boeing est dans le pétrin depuis quelques années parce que ces avions 737 MAX 8 ont éprouvé plusieurs problèmes, des problèmes logiciels en 2019 là, qui ont fait deux crashs d'avions absolument meurtriers. Et il y a eu aussi toutes sortes de petits pépins. Il y a eu des enquêtes journalistiques qui ont montré que Boeing tournait les coins ronds sur la sécurité. Récemment, il y a une sorte de cap... on met un panneau par-dessus une entrée de porte. La porte n'est pas fonctionnelle, mais il y a un panneau, évidemment, pour fermer le fuselage qui était mal attaché sur un vol de Alaska Airlines et qui s'est détaché. Ça aurait pu avoir des conséquences absolument tragiques. Il y a eu des tests de sécurité ordonnés par la FAA, le gendarme de l'aéronautique américain, et Boeing a échoué 33 des 89 vérifications. Donc, ça fait lever les sourcils, ça cause des inquiétudes. On va parler de tout ça avec Xavier Tittelman, qui est un ancien pilote militaire français, consultant en aérospatial, en défense et aussi un spécialiste pour surmonter la peur de l'avion. Monsieur Tittelman, bonjour.
Bonjour Patrick Lassé, bonjour.
Auriez-vous peur de prendre un Boeing 737 MAX 8?
Non, en ayant volé dans les avions militaires, je pense que j'ai fait absolument pire que de m'avoir volé dans n'importe quel avion civil. Donc, il n'y a aucun problème. Même pour les civils, ça pose aucun souci.
Ben, Xavier, j'ai pas l'habitude d'avoir peur de prendre l'avion, mais aujourd'hui, en faisant ma recherche là, à propos des problèmes de Boeing, je suis allé voir, j'ai réservé des billets d'avion pour aller à l'étranger dans quelques mois. Je suis allé voir quel type d'appareil j'allais prendre à l'aller et j'ai vu que c'était un Boeing 737 MAX 8. Et je vous le dis, j'ai eu un petit frisson. Tous les problèmes de Boeing, vous, ça vous cause pas de problème?
Non, alors, il y a deux choses. Il y a le fait que Boeing avait fait une première version de son 737 MAX qui, effectivement, avait un défaut qui a été corrigé par la suite. Donc, l'avion, depuis, il a fait des millions et des millions d'heures. On sait que c'est totalement corrigé. Il y a un deuxième problème, c'est le contrôle qualité. C'est de s'assurer que l'avion qui va être livré est bien conforme aux exigences des régulateurs de sécurité aérienne. Et là, c'est vrai qu'il y a des écarts. Il y a des écarts qui sont observés, qui ont fait que les avions ne pouvaient plus être livrés pendant une certaine période, à la fois sur le Dreamliner et à la fois sur le MAX. Et puis, plus récemment, on a l'événement que vous avez évoqué avec ce panneau qui a été arraché. Alors, c'est très grave. Ça aurait pu provoquer un accident. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais ce sont des choses qui sont réparables facilement. C'est-à-dire que les écarts sur le contrôle qualité sont faciles. Il suffit de vérifier cette porte si elle est bien accrochée partout dans le monde. Il suffit de vérifier s'il n'y a pas de micro-fissures sur les pièces en titane, que ça avait été le cas sur les 787. Donc ça, c'est quelque chose qui se corrige très rapidement. Et puis après, il faut être clair également, en ce moment, il y a aussi le hasard, le malheureux hasard, vu qu'il y a pas mal de Boeing sur lesquels il y a des petits incidents qui sont pas de la faute de Boeing, qui sont par exemple le fait de perdre une roue, ça c'est la maintenance, ça c'est la compagnie aérienne, mais du coup on se focalise tellement sur Boeing qu'on n'arrête pas de rapporter des faits qui sont sans gravité et surtout qui sont pas de leur faute.
OK, est-ce que les incidents rapportés par les médias, ce sont de bons échantillons pour vous?
Alors, ce sont des faits réels. Maintenant, si vous regardez la liste totale de ce qui a pu se passer dans les dernières semaines, on ne regarde que ce qui se passe chez Boeing. Par exemple, il y a eu des problèmes sur des circuits hydrauliques chez Airbus, qui sont normaux dans la vie des avions, et là, on ne va pas en parler. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle à l'époque du Rio-Paris, quand il y avait cet avion d'Air France, un Airbus A330 qui était tombé. Pendant les semaines et les mois qui avaient suivi, les gens avaient peur de l'Airbus et les gens et les médias se focalisaient principalement sur les petits problèmes des Airbus, alors qu'en fait, globalement, il y en avait autant chez Boeing. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a plus de difficultés chez Boeing que chez Airbus, mais néanmoins, on ne relève que celles qui viennent de Boeing, et même les petits événements secondaires, ce qui donne l'impression qu'il y en a quasiment tous les jours.
Quand on fait l'analyse d'un accident sérieux dans l'industrie de l'aviation civile, quelle est la part de responsabilité du constructeur de l'avion et, vous l'avez dit, de la compagnie aérienne?
Alors, le constructeur, c'est quasiment nul. C'est-à-dire que dans les dernières décennies, on a deux crashs qui sont liés au constructeur. C'était clairement les crashs du MAX et c'était lié à une méconnaissance, une incompréhension de la part des ingénieurs de Boeing de la réponse qu'apporteraient les pilotes à une situation que eux estimaient gérable. En gros, ils pensaient que au pire, si notre système dysfonctionne, c'est une panne que tous les pilotes de Boeing devraient savoir gérer depuis au moins 60 ans. Et ça, c'était une mauvaise compréhension de leur part. Mais à part ces cas-là qui sont vraiment liés au constructeur, tout le reste, et il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est à moins de 2 ou 3 accidents chaque année alors qu'on a plus de 30 millions de vols. Tout le reste, ça va être principalement de la mauvaise exploitation des avions qui sont en fin de vie, qui sont mal maintenus, en Indonésie, à Cuba, en Afrique. On va être sur des situations dans lesquelles finalement, oui, c'est souvent des Boeing parce que les avions qui ont aujourd'hui 30 ans, 35 ans, eh ben c'est les années 80, ils ont été livrés dans les années 90 et à cette époque-là, Boeing était très 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 dominant. Et donc aujourd'hui, logiquement, c'est pas le problème des Boeing, c'est le fait que ce soit des vieux avions mal maintenus et que Boeing a une écrasante part de marché sur ces appareils-là.
OK, n'en demeure pas moins qu'aux États-Unis, la FAA, là, le gendarme de l'aéronautique, a quand même Boeing à l'œil et pour ses manquements. Est-ce que, dans votre analyse, Xavier Titelman, est-ce que la FAA a fait son job ces dernières années avec Boeing?
La FAA, elle est mise en cause dans le fait qu'elle a certifié le MAX alors qu'elle n'aurait pas dû le faire. Elle avait laissé Boeing certifier son avion quasiment toute seule pour plus de 80% de l'appareil, ce qui était une erreur de leur part. Et donc déjà, la FAA, elle-même maintenant, elle essaie de rattraper ses erreurs où elle a été trop laxiste pendant une certaine période. De son côté, Boeing, ils ont réussi, ils ont voulu monter en cadence parce qu'il y a un besoin d'aviation qui est inégalé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu besoin d'autant d'avions. Et a priori, la montée en cadence ne s'est pas accompagnée d'une montée en puissance du contrôle qualité. Et là, aujourd'hui, on est vraiment entre ces deux problèmes. Il va leur falloir quand même du temps. Ça fait depuis 4-5 ans maintenant qu'ils font beaucoup d'efforts pour se rattraper. On voit qu'il y a de moins en moins d'écart par rapport à la normale. Mais une porte qui s'arrache, c'est absolument inacceptable. Et évidemment, il faut qu'ils s'alignent sur les standards internationaux. Notamment, on voit Airbus qui a fait énormément de travaux sur les big data et on voit que les résultats sont là aujourd'hui.
Donc, vous ne me recommandez pas de changer de destination pour changer d'appareil à la fin du mois de juin?
Non, vous pouvez voler tranquille. Je vous garantis à une certitude absolue que vous arriverez entier et heureux au bout. Vous avez plus de chances de gagner au loto que d'avoir un problème dans votre vol, c'est une certitude.
OK, je vous entraîne sur un autre terrain, Xavier Titelman, si vous permettez. On a souligné, malheureusement, le malheureux anniversaire de la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines. On n'a jamais retrouvé l'appareil, on a retrouvé des débris. Qu'est-ce qui vous frappe 10 ans plus tard?
Ce qui est malheureux, c'est qu'on a arrêté de chercher, en réalité. Parce que les investigations, où il faut des années, par exemple, les dernières études qui ont été faites par les instituts de recherche scientifiques, ils ont mis quasiment 5 ans avant de sortir pour pouvoir faire des analyses sur une zone. Les débris qui ont été retrouvés, on a plusieurs dizaines de débris qui sont arrivés sur les côtes africaines. Par l'analyse de la rétro-dérive, par l'analyse des crustacés qui s'étaient accumulés dessus, des proportions de carbone 14 dedans, on a pu arriver sur une zone qui était un petit peu plus précise. Malheureusement, les enquêtes, elles s'étaient arrêtées après avoir dépensé plus de 200 millions de dollars dans les investigations sous-marines. Et donc aujourd'hui, on voudrait relancer les investigations. Il y a des sociétés privées qui proposent de relancer les investigations et elles ne seraient payées que si elles trouvent. Mais malheureusement, même ces accords-là qui semblent pourtant gagnant-gagnant, ils n'arrivent pas à les valider. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on puisse relancer cette enquête pour arriver à une certitude sur la cause.
Quand vous regardez les données, les faits disponibles, les enquêtes, et je sais que l'enquête en Malaisie là, est discréditée, là, quelle est votre théorie sur ce qui s'est passé?
Alors, on travaille par élimination. On sait que l'avion a volé, a fait demi-tour. On a 3 radars différents, civils, militaires, de différents pays, qui nous prouvent que l'avion, il a traversé l'étroit de Malacca. Le téléphone portable du copilote a borné sur le réseau téléphonique terrestre à cet endroit-là. Donc, par exemple, toutes les théories qui nous disent que l'avion aurait été abattu par les Américains dès le début du vol, elles sont totalement fausses. Ensuite, on a un système électrique qui va se relancer, et donc on a le modem satellite de l'avion qui va se reconnecter au satellite, et l'avion va continuer à voler pendant 6 heures. Et les signaux qu'il va émettre, on va les analyser, ils ne contiennent rien, c'est juste une confirmation qu'il se trouve bien dans la zone de communication du système satellite Inmarsat. Et ces fréquences, elles sont un petit peu décalées, donc ça nous dit, là on pense avec une grande certitude qu'il y a eu une dépressurisation à cet endroit-là. Et puis 6-7 heures plus tard, on arrive à définir la trajectoire parce qu'on connaît la distance entre le satellite et l'avion à 7 reprises. Parce que quand l'avion se fait interroger par le satellite, il répond et on calcule le temps de réponse et ça va à la vitesse de la lumière, mais ça permet de faire des arcs de distance. Donc on a une zone qui nous fait, c'est dans le sud de l'océan Indien, avec 2 options. Soit c'était une chose qui était volontaire, faite par quelqu'un dans le cockpit qui a voulu orienter l'avion vers là-bas, par exemple un suicide. Soit c'est une succession de pannes qui pourrait par exemple provoquer un incendie, qui provoque la coupure des circuits électriques, qui provoque une dépressurisation. La dépressurisation éteint l'incendie, et sauf qu'à bord de l'avion, bah, tout le monde est évanoui, tout le monde est mort à cause de la dépressurisation, et il va voler tout seul pendant plusieurs heures, comme c'était arrivé par exemple sur le vol Helios en Grèce.
Un mystère qui perdure. Peut-être qu'on aura les réponses un jour. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Xavier Titelman, qui est un spécialiste de l'aéronautique basé en France.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.